La santé, c'est l'affaire de tous.
Merci d'être avec nous, il est l'heure de parler santé sur Phare FM Montauban. Il est à la santé ce que Iron Man est pour les Avengers, le docteur Edmundo Pereira. Alors j'ai pas trouvé mieux pour te présenter mon cher Edmundo. Comment vas-tu? Bonjour tout d'abord.
Très bien Laurent, ça me fait énorme plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler des choses très intéressantes.
Alors je vois ça, plaisir partagé. L'invité d'aujourd'hui est le docteur Jean-Christophe Sechka. Vous êtes anesthésiste réanimateur aux Hospices Civils de Lyon. Bonjour docteur.
Bonjour.
Président fondateur de MEDAE, logiciel d'aide cognitive. Alors quand deux anesthésistes se rencontrent, on croit qu'on va parler d'anesthésie. C'est raté, pas pour aujourd'hui. Le sujet du jour, accidents médicaux et aide cognitive. Docteur, vous avez l'antenne.
Alors oui, merci beaucoup Laurent. D'ailleurs, merci beaucoup JC, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Directement de Lyon, hein, ça me rappelle des très bons souvenirs. Aujourd'hui, on va parler effectivement d'un sujet très intéressant. On va parler des accidents, des erreurs médicaux, comment éviter. Et avant de commencer à passer aux questions, est-ce que toi, tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, tout à fait. Bonjour. Edmundo, ravi de te revoir. Alors, Edmundo, c'était mon maître à penser pendant ma thèse de médecine. Et donc, moi, je suis anesthésiste réanimateur comme Edmundo aux Hospices Civils de Lyon. Ça fait une vingtaine d'années. J'ai un passé d'ingénieur avant d'avoir fait médecine. Et je suis depuis une dizaine d'années formateur dans notre centre de simulation médicale à l'Université Rockefeller à Lyon, où on forme nos internes, nos collègues à gérer des situations de crise, à travailler sur le facteur humain. Et puis, en fait, à l'issue de ces expériences, je trouvais que mes prises en charge en tant que médecin n'étaient pas toujours excellentes, on va dire, et je me suis intéressé à ce qu'on appelle les aides cognitives, c'est-à-dire comment faire mieux, finalement, en situation, sachant que, quelle que soit notre expérience, on fait toujours quelques erreurs et que certaines, en tout cas, sont évitables. Voilà. À part ça, j'ai 4 enfants, et puis qu'est-ce que je peux te dire d'autre?
Non, déjà, c'est très bien. D'ailleurs, ça me permettra de poser la première question. À quoi sert concrètement une aide cognitive?
Alors, en fait, j'ai trouvé récemment, ça fait 10 ans que je bosse dessus, et en fait, j'ai toujours un petit peu de mal à l'expliquer. En fait, la meilleure description que je puisse faire, c'est quand on travaille avec des collègues qui ont beaucoup de charges de travail, mais de gestes techniques, par exemple. On va imaginer un infirmier ou une infirmière, on lui demande, tiens, est-ce que tu pourrais me préparer cette solution-là? Est-ce que tu pourrais me poser une perfusion? Est-ce que tu pourrais appeler au téléphone, machin, machine? En fait, on se rend compte que la charge de travail peut être très rapidement saturante et qu'il devient assez difficile d'accomplir en toute sécurité, en toute qualité, les actions qu'on est censé faire ou qu'on a demandé. Dans ce cas-là, il semble assez logique d'appeler à l'aide et de dire, tiens, en tout cas de déléguer une partie de ces gestes techniques à quelqu'un. Est-ce que tu peux m'aider à faire ci? Tiens, on m'a demandé de passer un coup de fil. Est-ce que tu pourrais appeler machin à ma place, etc. Quand il s'agit de la charge mentale ou de la charge cognitive, donc, cette délégation de tâches est quand même moins évidente. C'est-à-dire, en pratique, je suis un professionnel, pas forcément dans un cadre d'urgence, mais parce que nous, on travaille aussi, par exemple, avec des pharmaciens sur des préparations de chimiothérapie ou de choses comme ça. Des situations dans lesquelles il y a beaucoup d'enjeux et dans lesquelles, même si c'est pas une urgence, on n'a juste pas le droit de se tromper. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est un fait de notre éducation, notre entraînement ou la sélection des soignants qui se fait sur le par cœur? En fait, on n'imagine même pas que d'avoir beaucoup de charges cognitives peut être un handicap et que ça favorise en fait les oublis, les erreurs, les omissions, etc. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui est normal parce qu'on sait qu'un être humain fait entre 3 et 10 erreurs à l'heure, hein, quelle que soit sa spécialité, qu'on soit un médecin, qu'on soit militaire, qu'on soit un gamin qui fait ses exomates ou j'en sais rien, ou un musicien qui va faire ses gammes, on fait tous plein d'erreurs. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés de voiture? Je veux te montrer un truc à Edmundo, c'est par là qu'est le Mont Blanc et paf, je renverse mon café. Enfin, voilà, des erreurs comme ça, on en fait plein. Et plus on va gérer des situations complexes, en fait, plus on va faire d'erreurs et moins le cerveau va les rattraper. Alors, heureusement, notre cerveau, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Hein. C'est une machine qui est capable de prendre des décisions en l'absence d'informations, ou quasiment en l'absence d'informations, ce que fera pas un ordinateur. Mais toutes ces décisions sont tachées d'erreurs. Et donc, nous, dans nos professions où il y a de l'enjeu, quand on doit gérer une situation complexe, on n'a pas le réflexe de déléguer une partie de ces tâches. qui fait qu'en général, on va dire le mauvais leader, il y a les bons et les mauvais leaders, on va dire le mauvais leader va tout garder dans sa tête, va essayer de résoudre ses problèmes, alors que l'équipe va voir qu'il peut être complètement dépassé, qu'il va pas écouter ou qu'il va pas entendre les feedbacks de l'équipe. Et tout ça, c'est une manière de travailler qu'on essaye d'intégrer dans une culture de facteurs humains qui existe depuis 85 ans dans l'aviation. Hein, donc en santé, on est un peu en retard là-dessus, mais c'est des choses qu'on essaye d'intégrer. Donc pour revenir à la question à quoi sert une aide cognitive, eh ben une aide cognitive, ça va être un outil qui va avoir une ergonomie, un format qui va s'adapter aux habitudes locales du professionnel et qui va répondre pour son environnement à lui aux questions qu'il peut se poser pour dérouler sans erreur un protocole ou une suite d'actions, une suite de tâches. Donc la définition de l'aide cognitive, c'est comme un copilote. Moi j'aime bien l'image du pilote de rallye qui peut être champion du monde un certain nombre de fois, et même le champion du monde de rallye, il a toujours un copilote qui va lui dire, tiens, virage gauche, telle vitesse, telle, etc. Pourquoi ? Parce que ça sert absolument à rien pour le pilote d'apprendre par cœur tous les virages, mais lui doit se concentrer sur sa technique de pilotage et l'appréhension de l'environnement. Et en fait, voilà, nous, c'est ce qu'on essaye de faire en santé. Les environnements sont complexes, on a des tâches très complexes à accomplir en équipe. Et si on n'est pas familiarisé avec cette manière de travailler, eh ben, on a tendance un petit peu à s'enfermer dans une espèce d'introspection sur « attends, faut pas que j'oublie ça, faut que je pense à ça, mais je le sais par cœur voilà. ». Sauf que ce qu'on connaît par cœur, quand on est tranquille sur notre bureau, eh ben, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on va restituer en situation, voilà, surtout quand c'est stressant. Là, je pense qu'Edmundo, je ne t'apprends pas grand-chose là-dessus. Est-ce que ça te parle ?
Oui, ça parle effectivement. Ça m'amène à poser une deuxième question. Est-ce qu'on peut vraiment limiter les erreurs humaines ?
Alors ça, c'est un vaste débat parce que on entend souvent « Ouais, mais vous êtes des professionnels, c'est pas normal que vous fassiez des erreurs. » Alors en fait, non. L'erreur humaine, c'est un mode de fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'on apprend par erreur. Enfin, les enfants apprennent par erreur-correction. Correction de l'erreur, hein, pas correction des parents. Le petit enfant, il va commencer à faire ses premiers pas, il va se casser la figure, il va recommencer, etc. Nous, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, le cerveau humain va faire des erreurs parce que on a tous, d'une part, des biais. C'est-à-dire qu'on pense être rationnel dans une situation, or on ne l'est pas. Alors là on a les excellents bouquins notamment de Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie 2002, qui a mis sur le devant de la scène toute la description des biais cognitifs. Alors là, il y en a plein, hein. Il y a des centaines, mais on peut citer, le biais de confirmation. C'est-à-dire que vous allez vous faire une idée d'une situation, quelle qu'elle soit, et quand vous êtes persuadé que vous êtes devant la bonne interprétation de la situation, bah, vous allez prendre toutes les informations de l'environnement qui vont vous confirmer dans ce premier choix. Il y a le biais d'exclusion. A contrario, vous allez éliminer toutes les informations qui pourraient vous faire revenir en arrière de votre premier choix, etc. Et donc, des biais comme ça, il y en a plein. Et ça, notre cerveau, on est truffé. Et quoi qu'on fasse, et là, encore une fois, hein, c'est pas lié du tout à la médecine, hein, puisque ces techniques de travail sur les biais cognitifs, ces méthodes de travail vraiment centrées sur le facteur humain existent en aviation depuis très longtemps, dans le nucléaire depuis des décennies également, parce qu'on sait qu'on peut faire des erreurs. Et la question, c'est effectivement, et ta question elle est bien posée, parce que c'est comment faire, non pas pour rattraper les erreurs, mais dans la mesure du possible pour éviter qu'elles interviennent ou qu'elles apparaissent. Donc je pense que l'erreur est indissociable de l'humain. Après, il faut le savoir et il faut capitaliser sur tous les savoir-faire de tous les milieux complexes dans lesquels l'humain intervient. Encore une fois, on cite toujours l'aviation, le nucléaire, le rail, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'expérience là-dedans pour faire en sorte qu'il y ait peu d'accidents. Les erreurs, on en fait plein. Le cerveau en rattrape la majorité. Mais quand il y a un accident, on analyse les causes des accidents, il y a de l'humain dans quasiment tous les accidents. Voilà. Alors après, c'est des problèmes de travail d'équipe, des problèmes de communication, des problèmes d'oubli, des problèmes d'interprétation. Voilà. Et ça, c'est là-dessus qu'il faut, c'est sur ça qu'il faut travailler.
Dans ces cas, quels sont les points qu'on doit retenir s'agissant des accidents médicaux et les biais cognitifs ?
Alors, il y a Alors, les chiffres exacts, je les ai plus en tête, mais alors, on considère... Depuis, alors il y a eu un rapport américain de 1999 qui s'appelle « To Err is Human », donc « L'erreur est humaine », qui a vraiment mis un gros pavé dans la mare, puisque c'était le premier rapport officiel qui indiquait à l'époque qu'il y aurait environ 100 000 décès évitables aux États-Unis qui seraient dus à des erreurs humaines. Alors ça a mis un pavé dans la mare parce que d'abord les Américains, c'était pas concevable qu'étant Américain on fasse autant d'erreurs, et pourtant c'est la vérité. Depuis ça a été revu à la hausse, il y a un article de 2016 du British Medical Journal qui montrait que ça serait plutôt 250 000 décès évitables aux États-Unis. Les interpolations de ça sur les autres pays occidentaux tendraient à montrer, même si c'est toujours très difficile d'avoir les chiffres exacts, et que l'ordre de grandeur en France, ça serait 50 à 60 000 décès évitables par an dus à des erreurs humaines. Donc, ce qui veut dire que toutes ces erreurs humaines qui peuvent être en fait toujours décomposées de deux types d'erreurs qui sont donc les biais, premièrement, et deuxièmement, ce qu'on appelle le bruit, c'est-à-dire la variabilité d'un individu à l'autre. Je m'explique. Edmundo et moi, si on a la même culture, on a la même formation, on a à peu près la même expérience, si on nous met sous les yeux le même dossier de patient, on n'aura probablement pas le même jugement dessus. C'est-à-dire que les actions qu'on va mener seront différentes. Alors, ça peut être très différent, ça peut être un peu différent, mais il y a ce qu'on appelle donc cette variabilité interindividuelle. Et puis, si moi, vous me mettez un dossier sous les yeux, ou si on met un dossier sous les yeux d'Edmundo, très bien, on va se faire une idée, un jugement. On reprend le même dossier 15 jours après, très probablement, on n'aura pas la même interprétation, on aura un peu oublié ce qu'on aura... On aura peut-être oublié que 15 jours avant, on aura vu ce dossier, et on aura un autre jugement. C'est-à-dire qu'il y a aussi une variabilité intra-individuelle. Et ça, c'est important parce que ça n'avait pas été décrit initialement pour la santé. Ça avait été décrit, je crois, côté des assureurs et des juges d'instruction. Parce que si on demande à deux employés d'une même maison en compagnie d'assurance d'évaluer le prix d'un contrat d'assurance, en fait, bien qu'il y ait la même culture d'entreprise, la même expérience, les jugements ne seront pas les mêmes et les évaluations des coûts ne seront pas les mêmes. Et puis, on sait bien aussi en justice que si on prend deux juges différents, qu'on leur donne le même dossier, probablement que le prévenu ou le coupable, dans un cas, aura un an de tôle et dans l'autre cas, il aura 3 ans de prison, quoi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont montré que entre le moment de la semaine ou de la journée, les jugements ne seront pas les mêmes. On sait qu'un juge, après le déjeuner, sera plus clément que le lundi matin si son équipe de foot a perdu. Voilà, et ça a été largement démontré. Ce qui fait que tous ces biais cognitifs, toute cette variabilité, on sait que ça existe dans tous les domaines, et qu'il faut, qu'il faut travailler dessus. Alors, les biais, pour répondre à ta question, on sait que ça conduit à vraiment, vraiment beaucoup d'erreurs. On sait très bien, nous, dans notre quotidien, qu'on oublie toujours plein de choses, qu'en plus, on a des métiers dans lesquels on est constamment interrompu par le téléphone. Donc, l'interruption de tâches, quand le téléphone sonne 10 fois par heure, en permanence, on est interrompu dans nos raisonnements, etc. Et tout ça, ça conduit vraiment à des erreurs qu'on pourrait éviter. Alors, je rajouterais donc à la thématique, tu l'as compris, Edmundo, à la thématique d'aujourd'hui, il y a les biais et la variabilité, mais tout ça, c'est finalement l'erreur, les erreurs que commettent notre cerveau en situation.
Et si on parle des professionnels de santé, est-ce qu'elles sont prêtes, selon toi, à fiabiliser leurs pratiques et est-ce qu'ils sont-ils incités à le faire?
Ah, ça c'est encore une bonne question. Alors, les professionnels de santé, c'est quand même très très vaste. C'est comme dire les Français, ça veut.
Parce que
par exemple, pendant des années, moi j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là à peu près en 2014-2015. On avait fait quelques thèses, quelques publications. Très vite, j'espérais en fait que les collègues se disent tiens, on a des moyens de diminuer nos erreurs, de sécuriser nos pratiques et que ça allait vite partir. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si facile que ça pour tout un tas de raisons et que finalement on n'est pas tous réceptifs de la même manière à cette argumentation. Je pense pour l'instant que les plus réceptifs seront probablement, enfin en tout cas dans les gens avec lesquels on travaille, probablement les infirmiers, les infirmières ou des médecins, ou des professionnels dont la profession est beaucoup plus centrée sur la qualité comme les pharmaciens. Les médecins, oui, c'est un petit peu plus long, mais je ferai un parallèle avec les pilotes de ligne peut-être, parce que, alors là encore une fois, on vante les mérites de l'aviation, mais finalement, toute cette culture de facteur humain a mis quand même une trentaine d'années à s'installer pleinement dans les domaines de l'aéronautique. Alors, il y a tout un tas de raisons à ça. Il y a, je pense, notre éducation à la française, hein, qui pénalise toujours l'erreur et qui ne valorise jamais ce qu'on fait de bien. Hein. Toi, t'as des enfants au Ciel Mundo, tu vois bien les relevés de notes de tes gosses et puis les appréciations des profs. Même quand il y a une bonne moyenne, c'est toujours satisfaisant. Enfin, il n'y a jamais rien qui t'encourage, en fait. Et puis aussi les méthodes de sélection et d'enseignement des soignants qui est quand même essentiellement basé sur le par cœur parce que corriger des QCM ça coûte pas très cher et c'est facile quoi. Et alors que apprendre à développer un raisonnement et juger la qualité d'un raisonnement, de comment je remets en question mon raisonnement, etc., ça on le fait quasiment jamais. Ce qui veut dire que en s'adressant vraiment à ces histoires d'erreurs humaines dans les domaines de la santé, en fait déjà on se prend de face toute un pan de la culture, de la manière de travailler, parce que c'est pareil, hein, j'étais ingénieur avant. Quand tu passes un concours d'école d'ingénieur, on te fait comprendre que t'es l'élite de la nation, c'est super bien. Quand t'es médecin, on te fait comprendre que t'as passé deux concours. Enfin, c'est pas qu'on te fait comprendre, mais comme le système de sélection est ainsi fait. Quand t'as passé tous tes concours, tu te dis ouf, ça y est, j'ai réussi, j'ai abouti à quelque chose. Or, te dis jamais dans tes études que d'apprendre par cœur, ça fera pas de toi un bon soignant. Et ce qui fait de nous des bons soignants, c'est justement de s'occuper de nos patients, c'est s'occuper de l'équipe, éventuellement de débriefer l'équipe quand il y a une situation difficile qui s'est pas très bien passée. Et c'est surtout pas de recracher stricto sensu ou textuellement un protocole qu'on aurait appris par cœur, tu vois. Alors, ce qui fait que ça commence à arriver, encore une fois, je réponds, hein, je fais des grands détours pour répondre à ta question. Depuis les années, quand même, 2000, on a l'arrivée en force des exercices de simulation en santé. Donc, nous, par exemple, à Lyon, on a le CLES, on a le Centre Lyonnais d'Enseignement par la Simulation en Santé, mais dans la plupart des grandes villes universitaires, il y a des centres de simulation. Et là, on enseigne maintenant de plus en plus jeunes à nos internes, nos externes, justement à travailler en équipe, à communiquer, à se remettre en question, à écouter le feedback, etc. Moi l'exemple que je donne toujours à nos jeunes internes, hein, même si ils ont passé leur deux concours, maintenant je crois que pour être anesthésiste réa, il faut être dans les mieux classés à l'internat, je leur dis bon c'est bien, mais d'abord ça ne vous servira pas à grand chose parce qu'en situation vous oublierez 50% des trucs et tout le monde fait des erreurs et même votre chef. Mais ce qui est important, c'est d'écouter le feedback de l'équipe. Vous pouvez être, s'il est 3-4 heures du matin, ça fait 20 heures, vous n'avez pas dormi, vous ne pouvez pas être bon. Pas possible. Donc, écoutez l'équipe, apprenez à lire une aide cognitive, à déléguer justement une partie de votre charge mentale. Et ça, voilà, tant que ça ne sera pas officiellement dans nos enseignements, ce travail-là viendra un peu en plus des enseignements classiques. Moi, je pense que dès les premières années de médecine ou d'études, on devrait imposer des cours de facteurs humains, d'expliquer comment fonctionne le cerveau, d'expliquer que l'erreur est normale et que surtout, le truc à faire, c'est d'écouter les autres, quoi. Donc, ça vient, mais c'est long, mais ça vient.
Et ça permet effectivement est-ce que toi, tu as fondé effectivement Médaille avec des aides cognitives, est-ce que tu peux parler de cette solution qui, toi, tu proposes aux professionnels?
Ouais. Alors, en fait, au début, moi, je faisais de la prose sans le savoir, hein, comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire, c'était parti vraiment de la problématique que je trouvais que mes prestations d'anesthésiste réa étaient pas forcément optimales, surtout à 4-5 heures du matin, parce qu'il faut aussi savoir que les médecins de garde à l'hôpital travaillent 24 heures d'affilée. Ça fait pareil des décennies que c'est comme ça. Je pense qu'on doit être une des rares professions à enquiller 24 heures ou 25 heures d'affilée sans que ça gêne pas grand monde. Et donc, ce qui est certain, c'est que quand on n'a pas dormi depuis 16-20 heures, et qu'en général, on passe des journées assez tendues, on ne peut pas être performant. Donc moi, je m'étais rendu compte de ça. Moi, j'avais eu la chance de faire beaucoup d'aéronautique. Enfin, j'avais fait beaucoup de vol à voile en montagne quand j'étais plus jeune. Et j'avais quand même cette culture de l'aviation. Et moi, je retrouvais vraiment pas mon compte dans la manière dont on m'avait appris à gérer les situations. D'ailleurs, on m'avait pas appris à gérer les situations. Et du coup, j'étais un petit peu parti là-dessus en me disant, bon, voilà, si j'avais en tant que professionnel, je me fais une idée de la situation, et si je pense qu'on est en présence de la situation XY, si j'avais un cerveau idéal, eh bien je déroulerais le protocole en question. Bon. Sauf que j'ai pas un cerveau idéal, donc on a tous un téléphone, une tablette, un ordi pas très loin. Est-ce qu'on pourrait pas créer un outil, en fait, qui me donnerait toutes ces informations une fois que moi, humain, professionnel, avec mon expérience, je me ferais une idée de la situation. Donc voilà, donc on était parti sur un premier prototype en 2015, voilà, d'une appli qui vous donnait les actions à cocher, qui lançait des petits chronos, des choses comme ça. Et puis après, je suis allé voir un incubateur public, donc ce qu'on appelle une SAT, une société d'accélération de transfert de technologie. Donc il y en a dans toutes les grandes villes. À Lyon, la SAT s'appelle Pulsalis. Et puis, donc je leur ai présenté le projet, ils m'ont prêté de l'argent. Puis au fur et à mesure des années, comme ça, on a pu, avec cet argent, développer l'ergonomie de nos outils, enrichir la plateforme, etc. Puis en parallèle, eh ben, on a pu lancer plusieurs études cliniques qui ont abouti. Là, on en est à 6 thèses, on a 6 publis internationaux, puis on a quelques articles qui sont soumis là. Voilà, donc finalement, l'idée, c'était assez simple, c'est que quand on est en situation avec notre cerveau tout seul, entre guillemets, on fait pas bien. Ça, on l'a redémontré, mais on le savait. On oublie, même des gens très expérimentés oublient 40 à 50% des choses. Quand on utilise un papier dans une situation très stressante, et ben, chez nous, en tout cas, papier ou rien, c'est à peu près la même chose. Parce que tout simplement, le cerveau est incapable, notre cerveau est incapable de digérer un papier, même bien fait, avec des couleurs, des flèches, des trucs comme ça, des trucs à cocher. En fait, il se passe ce qu'on appelle l'effet tunnel, notamment, c'est-à-dire que quand on est en situation de stress, notre champ de vision se réduit, et là où on penserait avoir une situation, une vision très très large, ça c'est ce qu'on pense quand on est au repos et qu'on s'entraîne. Quand on est en situation, on sait que notre champ de vision se réduit, et interpréter dans sa globalité une feuille papier, c'est juste impossible. Donc moi, ce que j'avais fait dès le début, je me suis dit, bon, de toute façon, on va essayer de bénéficier des avantages du digital, et l'intérêt du digital, c'est qu'on peut présenter l'information comme on veut, et notamment au format séquentiel. Pourquoi ? Bah parce qu'on sait que le cerveau ne peut pas faire plus d'une chose à la fois d'une manière consciente. Voilà. Donc en fait, il faut tenir compte de la manière dont le cerveau fonctionne. Une chose à la fois, on est truffé de biais, et il y a une grande variabilité dans nos pratiques. Du fait, donc voilà, l'outil MAP tel qu'on l'a créé apporte les informations d'une manière très simple, avec des phrases, quelques mots. On peut y intégrer tout ce qu'on veut, c'est-à-dire des petites photos, des vidéos de quelques secondes, il y a des messages vocaux, des pop-up, des notifications qui vont vous rappeler, tiens, il est temps de faire ci, il est temps de faire ça, ça va gérer le temps, etc. Appeler un ami, ouvrir plusieurs procédures si besoin, faire des calculs. Et ce faisant, on peut déléguer complètement à l'outil la partie procédurale du métier à partir du moment où on s'est fait une idée, hein. Et du coup, nous, ça nous permet de nous consacrer à notre environnement, à notre patient, à notre équipe, à réévaluer avec l'équipe la situation, et si on s'est trompé, soit de faire évoluer la procédure en ouvrant une autre procédure, soit d'évoluer en fait, de passant de ma vision globale d'humain à je m'appuie sur l'outil une fois que je me suis fait guider. Donc voilà, et nous, on a l'impression que c'est une bonne manière de travailler, parce qu'en fait, nous, les résultats qu'on a sont quand même assez probants. Et puis là, tout à l'heure, je participais à un congrès dans lequel des pharmaciens de Nice ont fait un travail sur la préparation d'outils très spécifiques pour le traitement de leucémie, qui sont des préparations de cellules très spécialisées. Ils ont utilisé nos outils et ça a fait l'objet d'un Master 2 de qualité. Et en fait, du coup, on a des résultats très très intéressants dans des milieux autres que l'anesthésie pure. Donc nous on a enquillé des travaux dans les premiers secours, la médecine de guerre, l'anesthésie, la réa, la pédiatrie, et puis là la pharmacie. Et je pense qu'on a des cas de figure, des cas d'usage qui sont finalement infinis, hein, puisque on peut mettre ce qu'on veut dans nos outils. Voilà.
D'accord. Et est-ce que en anesthésie réanimation, est-ce que tu trouves une application précise ou est-ce qu'il y a un domaine qui s'applique au plus, ou comme tu as dit, tous les domaines sont applicables parce qu'on a des erreurs partout?
Je pense que je pense que dès qu'il y a de l'enjeu et de l'humain, il y aura de l'erreur. Et surtout, s'il y a de l'enjeu qu'on n'a pas droit à l'humeur, qu'on n'a pas droit à l'erreur, il faut utiliser ce type d'outil. Mais encore une fois, l'aide cognitive en elle-même, c'est pas le Père Noël. C'est-à-dire que ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Ça va fonctionner que dans le cadre d'un travail d'équipe où l'équipe communique, anticipe, délègue la charge de travail, etc. Et à ce moment-là, sortir une checklist ou une cognitive, ça fait partie des outils du travail d'équipe au même titre que l'anticipation, le leadership, la communication. Ce qui veut dire, pour moi, il n'y a pas trop de limites. Après, les cas de figure, nous, on était vraiment partis des cas d'urgence en anesthésie réa. Et maintenant, d'ailleurs, on va démarrer une thèse là-dessus sur l'anticipation. C'est-à-dire qu'en fait, les actions qu'on va mener, petit 1, on est dans un cadre d'urgence, donc à ce moment-là, on va faire des actions réflexes, parce qu'effectivement, on imagine très bien que si quelqu'un fait un arrêt cardiaque et s'écroule devant vous, le premier réflexe, ça va pas forcément être de sortir le téléphone de sa poche. Donc, on va déjà commencer quelques actions réflexes, mais sortir l'aide cognitive, demander à quelqu'un, une personne de l'équipe de sortir l'aide cognitive, ça doit faire partie des actions réflexes. Deuxième cas de figure, on est dans un cas qui n'est pas de l'urgence mais de la routine, où tout simplement, moi ce que je fais par exemple en anesthésie réa, on va endormir une patiente ou un patient pour une chirurgie, je regarde son dossier d'anesthésie, j'évalue les risques, en fonction du type de chirurgie, voilà, j'essaye de me faire un petit peu mon hit parade des complications qui pourraient apparaître, et en anticipation, je vais ouvrir mes aides cognitives pour relire rapidement les étapes qu'il ne faut pas rater. Et en faisant ça, la chirurgie n'a pas démarré, je sais que j'ai déjà oublié 3-4 choses. Tout simplement parce que le téléphone a sonné, parce que voilà, on est des humains. Et donc, à mon sens, l'aide cognitive, ça doit intervenir, que ce soit en routine ou dans les situations les plus stressantes. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, nous, on était partis des situations les plus stressantes, hein, dans lesquelles on a démontré un effet très très net. C'est-à-dire qu'avec juste 15 minutes de prise en main de nos outils, on diminue de 60 à 95% les erreurs et les omissions. Mais vraiment, nous, notre credo, notre discours maintenant, c'est de dire qu'il faut vraiment intégrer ce type d'outils, cette manière de travailler, même dans les situations de routine, parce que l'anticipation va faire qu'on va, comme son nom l'indique, anticiper, appréhender les erreurs avant qu'elles n'arrivent. Et finalement, c'est ce qui se fait partout, y compris dans le nucléaire. Hein. Un technicien du nucléaire, il va se dire, bon, j'interviens dans cette centrale-là, sur ce robinet-là, ce que je vais faire, c'est le protocole 122B. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ça, j'ai mon plan B, s'il m'arrive ça, j'ai mon plan C, s'il m'arrive ça, j'ai mon plan D. C'est un peu ce que j'appelle le radar météo. On ne verra jamais aucun pilote décoller de Lyon ou de Paris pour aller à New York sans regarder la météo, en se disant on verra bien s'il y a un orage sur l'Atlantique, et à ce moment-là, je verrai bien. Et non, et pourtant, nous, c'est ce qu'on fait tous les jours en santé. On est très réactif, alors qu'anticiper, c'est d'être proactif, et je pense que c'est la bonne manière de travailler. Voilà. Je pense qu'on a il y a des tas de choses, des tas d'erreurs qu'on peut éviter. On n'a plus vraiment le droit de se dire on est des artistes, ça va passer. Je pense que c'est pas très éthique.
Est-ce que d'une façon précise, je sais que c'est pas évident là la question que je te pose, mais est-ce que d'une façon précise, en utilisant l'aide cognitive commercialisée par ta boîte, est-ce que tu as une idée de combien tu peux diminuer le pourcentage d'erreurs? Je sais que c'est très vaste, mais grosso modo, en disant que j'utilise telle solution, je peux diminuer X% en erreur, en sachant que c'est compliqué parce que chaque situation, c'est une situation différente. Chaque patient, c'est un patient différent. Mais est-ce qu'on, simplement pour donner une idée de l'importance qui s'apporte ton aide cognitive?
Ouais. Bah alors là, du coup, j'ai des réponses assez précises parce que c'est tout ce qu'on a pu montrer nous dans nos études faites dans le centre de simulation. Donc, ce qui est systématique, c'est que quel que soit notre entraînement, c'est-à-dire que ce soit des anesthésistes chevronnés, des militaires, des forces spéciales, globalement, en situation, on oublie 40 à 50% des choses. Et ce qu'on observe, c'est qu'avec l'aide cognitive, avec un entraînement qui est somme toute assez minimal, déjà d'emblée, on diminue de 60% ses erreurs et ses oublis. Avec une courbe d'apprentissage qui est extrêmement rapide, moi-même ou les collègues qui utilisent ce type d'outils à l'hôpital, enfin, déjà, quand il y a une situation très compliquée au bloc opératoire et de temps en temps, d'abord, c'est zéro stress. Ça change la vie. Et ensuite, moi, j'ai l'impression de ne quasiment rien avoir oublié, en tout cas du protocole. Et ce qui est intéressant, c'est que en déchargeant complètement cette partie protocole sur l'aide cognitive, moi je me concentre sur la réévaluation des pratiques, sur aller chercher des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, sur demander le feedback de l'équipe, et puis éventuellement si ça se passe pas très bien, moi j'ai un peu plus d'énergie en ayant la conviction qu'en tout cas on avait fait ce qui était dans le protocole et en tout cas d'avoir fait ce qu'il fallait. Moi ça me donne de l'énergie par exemple pour débriefer l'équipe, pour en discuter, chercher des points d'amélioration, etc. Donc moi je te dirais, pour répondre à ta question, c'est à minima on diminue le nombre d'erreurs et d'oublis de 60%, c'est avec un entraînement minimum, hein. Dans nos études on faisait faire joujou avec l'outil à nos professionnels pendant une quinzaine de minutes, mais après il y a une courbe d'apprentissage qui est vraiment super rapide, c'est-à-dire qu'il suffit de bien connaître l'outil, de l'utiliser régulièrement, et là ça devient une deuxième nature, et là je pense qu'on oublie, bon il y a toujours un petit truc qui passe à la trappe parce qu'on reste des humains, mais quand je dis 95%, je pense qu'on n'oublie vraiment pas grand-chose sur l'outil. Et l'intérêt de l'outil aussi, c'est de pouvoir être personnalisé, c'est-à-dire qu'on peut, comme on peut mettre ce qu'on veut dedans, ben on le personnalise à nos habitudes, aux habitudes de l'équipe. Voilà, je pense qu'on peut oublier, on pourrait rattraper de 60 à 95%, je pense, des oublis, des omissions, quoi. Il reste un petit epsilon parce qu'on reste des humains, quand même.
Parfait. Bon, malheureusement, le sujet est très intéressant, mais le temps passe et on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que, avant de la clôturer, oui, ça passe vite, hein, JC, est-ce que tu as un message principal à passer à nos auditrices, nos auditeurs?
Eh bien, d'abord, j'étais très content d'être là ce soir.
nous aussi, on est content de t'avoir avec nous.
Non, bah, je suis très heureux d'avoir été invité. Je pense que la bonne parole, c'est ça. C'est d'abord, il faut être indulgent avec nous-mêmes, c'est-à-dire que faire des erreurs, c'est normal. Il faut être indulgent avec les professionnels qu'on croise, parce que faut se dire que même quand un professionnel fait une erreur, ça fait partie du fonctionnement. Après, voilà, il y a des moyens de... il y a une culture à changer, il faut vraiment pousser. Alors c'est toujours plus long, on est toujours déçu parce que c'est trop long. Imposer le facteur humain en santé, voilà, c'est long, ça change la culture, ça peut heurter certaines personnalités, mais je pense que in fine, être un bon soignant, c'est pas connaître des trucs par cœur, c'est vraiment s'intéresser c'est travailler en équipe, c'est s'intéresser à nos patients, à notre environnement, voilà, c'est ça être un bon soignant, c'est pas, et ça finalement on peut s'entraîner dessus, il y a une culture à changer, mais je pense que je reste assez optimiste. C'est toujours trop long, mais ça, c'est en train d'arriver, donc il faut pas désespérer, ça va.
Merci beaucoup, JC. C'était un grand plaisir. Tu sais, il faut que tu saches que l'antenne est toujours ouverte le jour que tu veux venir parler à nouveau. Un grand merci de ta participation, de ton temps, et au plaisir de te voir dans un futur proche.
Bah ouais, j'espère. Merci Laurent. Merci Edmundo. À très bientôt, alors.
À très bientôt. Je te passe l'antenne, Laurent.
Très bien. Merci Edmundo. Merci, docteur Sechka, d'être passé sur Phare FM pour nous parler des erreurs et des aides cognitives pour y faire face. Merci pour votre explication. Je rappelle que si vous désirez réécouter ou partager cette émission, elle est disponible en podcast sur notre site www.pharefm.com, rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.